Bonjour, rebonjour à tous. Tu peux mettre la première, Pedro. Puis après, j'essaierai avec la télécommande voir si ça passe. Mais si tu mets la première, bien. Ce matin, dernier message de la petite série de messages indépendants, mais dont le fil conducteur de l'été s'est résumé dans l'expression « voir au-delà des apparences ».« Voir au-delà des apparences ». L'idée phare, les versets clés des précédents, il y a eu « au-delà des apparences, Dieu regarde au cœur ». L'Éternel, effectivement, n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Au-delà des apparences, la folle sagesse, la folie de l'Évangile, la prédication de la mort du Christ sur une croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Au-delà des apparences, Dieu agit. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés, c'était à cause d'une persécution suite à l'assassinat de quelqu'un, pour sa foi, ils annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Au-delà des apparences, Jésus et ses disciples, qu'on a vu semaine dernière, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Nous, nous croyons et nous connaissons que toi, tu es le Saint de Dieu. Et ce matin, comme annoncé, dernier exemple, avec notre ami Abraham, voir au-delà des apparences. Et pour nous, êtres humains, dans le domaine spirituel, ça pourrait se résumer en quel mot ? Un seul mot ? De voir au-delà des apparences ? Une idée ? Deux mots ? Pas d'idée ? En lien avec Abraham, quand même ? La foi, exact. Alors, ça marche ça ou pas ? La foi, bien sûr. Et comme le dit un verset bien connu, le premier de ce passage, qui devrait être connu en tout cas, que je recommande à connaître, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration de celle que l'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est un aspect en tout cas, la foi permet de voir au-delà du visible, au-delà des apparences. Pour commencer, je nous invite à lire donc quelques lignes de ce chapitre de nos Bibles, Hébreux chapitre 11. Donc je relis le verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celle que l'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et je saute au verset 8 qui parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Une autre traduction du verset 1 donne comme définition: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. une façon de posséder ce qu'on espère. Ce à quoi les détracteurs répondront que c'est surtout une façon de se faire rouler dans la farine. Et c'est une grosse arnaque. On te fait croire que tu possèdes quelque chose, mais en fait, tu ne la possèdes pas. Tu l'attends, tu l'espères, mais tu ne la possèdes pas encore. Donc, tu ne la possèdes pas du tout. Point. Tu attends, tu l'espères, mais tu ne la possèdes pas. C'est une grosse arnaque, non ? Vous me connaissez, j'aime bien poser les questions un peu dérangeantes de ce style-là. Tu ne le possèdes pas, et peut-être que tu le posséderas dans le futur. C'est en tout cas ce qu'on essaye de te faire croire. Mais cela reste très hypothétique, non ? Très illusoire. Une belle promesse, peut-être, mais une réalité, pas encore. Et peut-être même jamais. Une maxime populaire, assez juste, ne dit-elle pas, un brin ironique, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ? D'ailleurs, notre passage ne confirme-t-il pas qu'Abraham est mort sans avoir reçu les biens promis ? Mort sans avoir reçu les biens promis ? C'est clair, c'est au-delà des apparences. Abraham s'est fait rouler. Et son fils Isaac aussi, et son petit-fils Jacob également. Ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le texte. Allez, on vote. Qui dit que c'est une arnaque ? Qui pense que non ? Allez, n'ayez pas peur, on est entre nous. Et puis, il n'y a que moi qui suis filmé, alors on ne vous verra pas répondre. Vous êtes timide, hein ? Plutôt du genre, je m'abstiens. Pas grave, j'enchaîne. Sans avoir reçu les biens promis. Et si on connaît un peu l'histoire d'Abraham, on sait que les biens promis, c'est le pays de Canaan. Abraham a reçu comme promesse de posséder cette vaste région, promesse territoriale. On lui a dit de quitter sa patrie en Mésopotamie, vers l'Irak actuel ou l'Iran actuel, je ne sais plus exactement, pour aller dans un pays qu'il devait recevoir en héritage, la zone d'Israël actuelle. Et hop, Abraham, il y va, s'installer dans le pays promis. Mais grosse arnaque ! Déjà, il n'était pas bien installé. Il y a habité sous des tentes, dit encore le texte. Et en plus, il n'est pas devenu propriétaire du tout. Il y était comme dans un pays étranger. Et toute sa vie durant, et pas que lui, hein, il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Et oui, la promesse a été plusieurs fois répétée. Lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Et comme je vous le disais, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ce n'était pas une apparence, c'était une réalité. Abraham n'est pas devenu propriétaire du pays. Isaac, son fils, que dalle non plus. Jacob, le fils de son fils, walou, rien non plus. Ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Bien promis, tu parles. Bien surtout, non obtenus. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est pas plutôt un attrape-nigo ? Une escroquerie pour les gens crédules ? Pas de possession territoriale pour Abraham ni ses premiers descendants. Promesses répétées, mais de toute évidence, promesses non tenues. Ils sont restés étrangers et voyageurs sur la terre, comme nous le confirme encore le texte. Le passage évoque le fait qu'ils sont vus et salués de loin. Les biens promis. Mais n'est-ce pas juste pour rassurer, une façon de prolonger le mythe, de continuer à faire croire qu'il y a vraiment une vraie promesse ? Allez, Abraham, avance ! Regarde, tu vois le mirage de loin ? Allez, Isaac, avance, regarde, tu vois le mirage de loin ? Etc., etc. Si on connaît un peu l'histoire d'Abraham, on sait que la promesse territoriale n'est pas à considérer seule, car il y a en effet une autre promesse couplée à celle dont nous venons de parler. Soyons clairs, cette promesse n'en est pas moins folle. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. J'ai mis l'image du sable parce qu'il y a d'autres versets qui parlent plutôt de l'image du sable au bord de la mer. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. J'en connais un qui va encore se faire rouler. Ça sent la grosse arnaque. Et oui, parce que la photo d'Abraham et de son épouse Sarah et de sa descendance, lorsqu'il part pour le pays promis, c'est ça. Il n'y a que eux deux, pas de descendance. Juste Abraham, qui a alors 75 ans, et Sarah, son épouse, 65 ans. Et ils n'ont pas d'enfants. Et petit détail, Sarah est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Et en conséquence, elle n'en a pas. Logique. Et de toute façon, désormais, à 65 ans, il ne faut pas rêver, c'est juste impossible. Juste impossible. Il faudrait vraiment un miracle, comme on dit. Hein. Mais qui croit au miracle ? Qui croit encore au miracle ? En tout cas, 5 ans plus tard, la photo de famille, entre guillemets, c'est toujours ça. Ils sont toujours que deux. Et voici, 10 ans plus tard, aucun changement, à part quelques rides en plus, même si ça ne se voit pas trop sur la photo. 15 ans plus tard, Sarah n'a toujours pas eu d'enfant. 20 ans plus tard, Sarah n'a encore et toujours pas eu d'enfant. 24 ans plus tard, eh oui, ne vous attendez pas à une surprise, Sarah n'a toujours et encore et toujours pas d'enfant. Bref, apparemment, il s'est encore fait rouler, le pauvre Abraham. Non ? C'est pas une apparence, c'est une évidence. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Peut-être qu'Abraham avait mal entendu. Peut-être qu'Abraham avait mal compris le message. Il faut reconnaître que la couverture réseau n'était pas fameuse à l'époque. Les photos non plus, d'ailleurs. Hein. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Promesse irréaliste, promesse exubérante. Avec le temps, peut-être que c'est plutôt le doute qui commence à s'installer, non ? Quelqu'un parmi vous a déjà attendu plusieurs décennies l'accomplissement d'une promesse ? Pourtant, vous avez déjà tilté, évidemment. N'ai-je pas déjà parlé d'un Isaac, fils d'Abraham ? Et n'ai-je pas déjà parlé d'un Jacob, petit-fils d'Abraham ? Mince, j'ai spoilé la fin, déjà. Bon français, j'ai tué le suspense. J'aurais surtout déjà dû parler de celui qui a fait les promesses. Mais oui, qui a donc fait toutes ces promesses farfelues et apparemment qui ne se réalisent jamais ? La foi est évidemment une grosse arnaque si on la place n'importe où. La foi est une grosse entourloupe si on la place en n'importe quoi ou en n'importe qui. Ça, faut pas faire. Mais si la foi est placée au bon endroit, en la bonne personne, alors ça change effectivement tout. Ça change effectivement tout. Et c'est Dieu, Dieu qui a promis tout cela à Abraham. C'est Dieu. J'avais omis de mettre en avant ce petit détail. On a chanté tout à l'heure « Dieu de l'impossible ». Dieu peut faire tellement au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est lui qui peut tout accomplir. Plutôt que nous, évidemment, pour être précis. La propriété de Canaan, c'est de Dieu. La descendance ultra nombreuse, encore promesse de Dieu. Peut-être que préciser cela ouvre d'autres perspectives aux promesses qui ont été reçues, n'est-ce pas ? Ce ne sont plus des promesses farfelues qui ne se réalisent jamais, parce que celui qui les promet en serait bien incapable. Non. Ce sont de merveilleuses promesses, certes ambitieuses, dont la réalisation est certaine, puisque c'est le Tout-Puissant lui-même qui les donne. Cela change tellement les perspectives. Cela change tellement les perspectives. Le promettant, on n'utilise pas trop souvent ce mot-là, mais le promettant, celui qui promet, est digne de confiance. Et non seulement digne de confiance, mais il est aussi le seul capable de réaliser ce qu'il annonce. Même s'il faut bien le reconnaître, la temporalité, le timing, on parle plus anglais que français, je trouve, maintenant, de nos jours, dans nos vocabulaires. Hein. La temporalité que lui seul choisit souverainement peut souvent, fréquemment, surprendre, décevoir, sembler tromper de prime abord, en tout cas être différent de ce que nous, on aimerait, ou ce à quoi on s'attendrait. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce qui est écrit au chapitre précédent du livre de la lettre aux, de la lettre aux Hébreux. Dieu a fait la promesse. Dieu est fidèle. Mot qu'on peut aussi traduire par digne de confiance. Dieu est digne de confiance. C'est donc une affirmation vraie de toute éternité, comme lui. Celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Pas étonnant qu'Abraham et Sarah ont pu être confiants alors. Partir sur sa demande, s'attendre à lui. Si Dieu l'a dit, il suffit d'être patient, non ? Si Dieu l'a dit, il suffit d'être patient, non ? Fastoche ! Fastoche, vraiment ? Effectivement, si on relit les chapitres concernés du livre de la Genèse, je corrige mes fautes d'orthographe en même temps que je les vois, hein. Dieu a clairement béni Abraham et Sarah et manifesté et sa présence et sa protection et sa guidance et sa bénédiction à leur égard. C'est sûr que Dieu va accomplir, va agir pour ses promesses, car Dieu agit déjà malgré le temps qui passe. Clairement, Dieu bénit, clairement, Dieu a enrichi. Dieu a en effet permis, et c'est une grâce, de grandes bénédictions matérielles pour Abraham et Sarah. Et le nombre de son bétail, brebis, bœufs, ânes, chameaux, de serviteurs, de servantes, a considérablement augmenté au fil des années. Clairement, Dieu a protégé en inclinant favorablement le cœur des personnes alentour. Quand ce n'était pas le cas, Dieu a permis qu'Abraham remporte les combats. Clairement, Dieu a agi, protégé, gardé, guidé, béni. Dieu a fait qu'Abraham soit aussi quelqu'un de généreux, de bienveillant, d'accueillant, d'aimant. Et surtout, Dieu a aussi fait qu'Abraham a eu une proximité spirituelle particulière, une amitié, une relation vivante avec Dieu, une communion étroite. Et c'est là, à mon avis, la plus belle des bénédictions. La plus belle des bénédictions. Bien avant le côté matériel, qui n'est pas indispensable, oui, au contraire de cette relation avec Dieu. Et on peut le voir dans différents dialogues entre Dieu et Abraham, Abraham et Dieu, comme quand il prie pour Sodome et Gomorre avant qu'elle soit préservée. Oui, avec tout cela, on peut faire confiance à Dieu, assurément. Avec tout cela, il est évident que c'était facile pour Abraham et Sarah d'attendre le temps de Dieu, d'attendre patiemment l'accomplissement des promesses. N'est-ce pas ? Romains chapitre 4 nous dit d'ailleurs « Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Espérant contre toute espérance. Ça, c'est une formule que Nordine aime bien particulièrement. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Une autre version traduira, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, pas d'incrédulité, par incrédulité de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ouais, si Dieu l'a dit, il suffit d'être patient. Si Dieu l'a dit, il suffit d'être patient. Dieu a effectivement permis que la foi d'Abraham triomphe au final. La conclusion est belle, grâce à Dieu. Ayant quelques 2000 ans d'histoire et de recul, l'épître Paul, qui écrit ce texte de Romains, connaît la conclusion des choses, et il n'enjolive donc pas l'histoire en mettant en avant l'accomplissement promis. Mais, et aucune contradiction là-dedans, on le sait, si on zoome un peu plus en détail, on le sait aussi, cette foi n'a pas été linéaire, cette foi n'a pas toujours été parfaite, constante, envers et contre tout, non ? Comme chaque être humain, des fois, cela a pu ne pas être évident. Aussi pour Abraham, aussi pour Sarah. Ils sont ainsi un parfait exemple, mais je ne savais pas trop comment orthographier un parfait exemple. En deux mots ou en un mot. Oui, 25 ans après la première affirmation par Dieu de la promesse de descendance faite à Abraham, oui, il a effectivement eu foi, et entièrement foi en Dieu. Et l'année d'après, il y a eu cette naissance. Sans doute était-il alors fortifié par son expérience de vie bénie, comme j'ai pu le souligner. Sans doute était-il fortifié par sa relation vivante avec Dieu. Mais on le sait, 15 ans plus tôt, 10-11 ans environ après avoir reçu la promesse, la Bible relate un couac particulier. Une impatience, un doute, une incrédulité par rapport à l'hérédité annoncée. Alors que plutôt que d'attendre l'hypothétique début d'accomplissement d'une promesse qui, de toute évidence, semblait tarder à se concrétiser, elle ne pourrait en tout cas pas se concrétiser, puisque physiquement impossible, comme on l'a déjà évoqué. Abraham et Sarah ont pensé à une solution plus prosaïque, une solution toute humaine pour résoudre le problème. Certes, on s'est un peu écarté quelque peu de la teneur originelle de la promesse, mais la société de l'époque, ses mœurs, ses principes sociaux le permettaient. Alors, on ne va pas chipoter, hein. Suggestion de Sarah, qu'Abraham écoute favorablement, après 10-11 ans d'attente en vain. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. La femme d'Abraham prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari. Et celle-ci tomba enceinte. On connaît la suite. Il y a eu des complications. Mépris, rivalité, jalousie, conflit. Certes, un enfant est né, mais cette, entre guillemets, solution humaine, bancale, n'était pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. La servante et ce fils illégitime ont été chassés. Et Abraham et Sarah restent seuls sur la photo, comme évoqué tout à l'heure. Alors, petite parenthèse, je précise que Dieu valorise la vie et toutes les vies. Alors Agar et Ismaël ont aussi fait l'objet de la protection et de la bénédiction de Dieu. Quand bien même cette naissance n'était pas dans le plan originel de Dieu et pas conforme à sa volonté. Mais on connaît aussi les lourdes conséquences historiques de ce doute et de cette désobéissance d'Abraham et de Sarah. Mais c'est une autre histoire. Je referme la parenthèse. Abraham est souvent connu comme le père des croyants. Sarah et lui sont effectivement cités dans ce chapitre d'Hébreux 11 comme des héros de la foi. Il me semble important de noter que la Bible reste réaliste, juste réaliste, vrai, les concernant, comme concernant tout personnage biblique d'ailleurs. Il y a quelques semaines, on avait évoqué David, homme selon le cœur de Dieu, et pourtant avec un certain nombre d'actions pas honorables du tout, mais pardonnées. Même chose pour Sarah et Abraham, en fait. Nous avons donc, nous aussi, des raisons d'espérer et de bonnes raisons de placer notre foi en Dieu, aussi imparfaits que nous soyons ou que nous croyons être. Abraham et Sarah, il leur a fallu 25 ans de patience pendant lesquels il y a pu y avoir de l'impatience. 25 ans de foi pendant lesquels il a pu y avoir des doutes. Mais en tout cas, ce fut 25 ans de fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu à qui il est et à ses promesses, combien même elles tardaient à s'accomplir. Mais globalement, oui, Abraham et Sarah ont vu au-delà des apparences, cru au-delà des apparences. Et voilà alors le miracle en la naissance d'Isaac, le début de l'accomplissement de la promesse d'une descendance. Mais c'est impossible! Humainement, oui, impossible, mais divinement. Et c'est une arnaque, on essaie de nous faire croire à des balivernes dans ce livre. Moi, je crois que c'est un miracle que Dieu a accompli, mais à vous de juger. Un certain nombre de sceptiques disent que cette histoire d'Abraham a été inventée par des sages juifs lors de l'exil du peuple à Babylone au 5e siècle avant Jésus-Christ, que cette belle histoire, trop belle pour être vraie, était une façon de s'inventer un passé pour expliquer un présent. Une façon pour un petit peuple humilié et exilé de s'inventer une histoire collective et de se forger une identité fédératrice, un destin divin. Quand on lit la Bible, je ne suis pas sûr que ce soit une histoire vraiment glorieuse pour Israël. Mais si c'est une invention, je tiens vraiment à saluer l'érudition de ces sages. Bravo, messieurs, pour la justesse extraordinaire de leur invention avec 1500 ans de décalage. Alors certes, les choses évoluaient assurément moins vite à l'époque qu'aujourd'hui, mais pouvaient-ils vraiment connaître avec autant de précision les mœurs du temps des patriarches, ils ont tout inventé. Et pourtant, en 1901, en archéologie, on a découvert une stèle écrite, ça s'appelle la stèle d'Amourabi, avec dessus écrit un code, avec des textes de loi, de ce qui est théorisé, légal ou pas légal à l'époque. Et bien, ça corrobore exactement l'historicité des détails de l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar. Le fait que Sarah ait donné sa servante à son époux pour avoir une descendance. Ce texte-là, dont la datation est de moins 1750, rendait légale à l'époque cette pratique, effectivement, pour avoir des héritiers. Les sages pouvaient-ils l'inventer ? Exacte invention ou histoire vraie ? À vous de juger. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, Abraham n'a pas obtenu la possession effective, n'a pas obtenu le titre de propriété du pays de Canaan. Il y est resté locataire, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Mais par la foi, il a pu voir et saluer de loin les biens promis, en ce qu'il a pu savoir sans doute aucun que la promesse se réaliserait en son temps. Oui, pour l'accomplissement des promesses, il faut être patient, un minimum patient, voire un maximum patient. Car la temporalité de Dieu n'est souvent pas la nôtre. Et l'accomplissement n'a été de fait effectif que 5 à 600 ans plus tard. Mais si Abraham a pu le savoir pour sûr, par la foi en être certain, c'est bien que le début du commencement des prémices initiales de la réalisation de la promesse d'une descendance ultra nombreuse avait effectivement commencé malgré l'impossibilité humaine. De toute façon, comme le souligne aussi Hébreu, ni lui, ni Isaac, ni Jacob ne s'attachaient vraiment aux choses matérielles, aux choses d'ici-bas. La possession de la terre ici-bas ne leur était pas nécessairement primordiale. Ce n'était pas pour eux une obsession. Par contre, l'éternité avec Dieu, la patrie ou cité céleste qu'évoque le texte, ça, ils la désiraient. Ça, vraiment, ils l'ont voulu. Et ça, ils l'ont obtenu. Et nous aussi, nous sommes invités dans cette patrie céleste. Et c'est bien là l'essentiel à faire de priorité. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Pas d'arnaque là-dedans, en fait, mais de la patience. Et au-delà des apparences, de la confiance. Telle est la recette, pourvu que tout cela soit placé en Dieu. Merci de tes promesses, Seigneur. Merci de ta fidélité à tes promesses, ô notre Dieu. Quelqu'un écrivait hier sur le groupe WhatsApp, donc ce n'était pas Abraham qui a écrit ça. « Je vois un nouveau chemin devant moi, et même si je ne sais pas du tout où il va, je fais confiance à Dieu. » Quelqu'un qui vient juste de découvrir Dieu, mais qui a déjà compris cet essentiel. Faisons aussi nôtre cette phrase, sachant que Dieu est digne de confiance. Amen. Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Aussi nombreuse que la poussière de la terre, que les étoiles du ciel ou que le sable au bord de la mer. Une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, Jésus-Christ. Ainsi écrivait l'apôtre Jean. Allez, encore un qui s'est fait rouler dans la farine. Mais non, c'est la vision du merveilleux accomplissement d'une folle promesse. Un accomplissement qui a déjà commencé. La preuve, moi, vous, et plein d'autres. Si nous ne sommes pas que des apparences. Une belle et innombrable descendance spirituelle et non pas charnelle de personnes ayant placé leur foi en Dieu leur Seigneur et Sauveur, comme Abraham. Je vous invite à prier. C'est vrai, Seigneur, des fois viennent des doutes. Est-ce que ce que nous croyons est vrai ou est-ce qu'on se fait arnaquer? Est-ce que c'est une blague, une illusion, une béquille psychologique ou une réalité? Merci parce que par tant de choses, tu prouves que tu es un Dieu fidèle, que tu existes, que tu es un Dieu attentif, un Dieu qui écoute, qui entend, qui répond. Oui, tu es digne de confiance. On le voit à travers ta parole et on le voit aussi dans nos vies. C'est vrai que certains jours, c'est peut-être plus difficile à voir. Mais en nous, tu as ancré cette réalité, cette vérité. Toi seul nous donne une paix véritable. Toi seul nous donne la joie, même dans des circonstances compliquées. Toi seul donne une vraie espérance éternelle. Seigneur, avive toujours en nous cela, chaque jour. Balaye tout doute. Aide-nous à franchir tout obstacle. Oui, nous voulons croire en toi. Nous ne voulons pas placer notre foi en n'importe quoi, en n'importe qui, en des trucs stupides et débiles, mais oui, nous voulons placer notre foi en toi. Parce que nous savons que toi seul as un projet de vie pour nous. Toi seul offre l'éternité. Toi seul pardonne nos péchés. Toi seul change nos vies. Tu es digne de confiance, nous le savons, nous l'avons déjà expérimenté. Merci Seigneur. Parle encore à nos cœurs, parle au cœur de celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais-toi connaître, sois-toi le Dieu vrai et vivant. Merci pour l'exemple de foi de nos prédécesseurs, de nos des ancêtres dans la foi, comme Abraham, Sarah et d'autres. Donne-nous la patience aussi, Seigneur, quand nécessaire. Certainement quelque chose qui nous fait défaut souvent. Merci parce que toi, tu es patient. Toi, tu es fidèle. Merci encore pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen.